Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez parlé de l'élection des consuls à Saint-Antonin et du rôle que jouaient les consuls. Et vous nous avez dit que, de suite élus, les consuls mettaient en place l'administration de la ville. Et nous n'avons pas eu le temps de parler de cette administration. Nous allons donc en parler aujourd'hui. Et Madame Julien, nous écouterons ce que vous nous aviez annoncé en musique et que nous n'avons pas passé. Vous nous rappelez de quoi il s'agit ?
Eh bien, d'abord un appel à la cornemuse, parce que les cornemuseux, comme d'ailleurs les trompaires, étaient appelés souvent par l'administration pour appeler la population à se réunir. Nous entendrons donc d'abord un appel à cornemuse et puis ensuite, dans le courant de l'émission, nous entendrons de la musique du XIVe siècle.
Monsieur Julien, dans l'élection des consuls, vous nous avez parlé à plusieurs reprises des 24 conseillers de ville. Vous pouvez nous dire un mot de ces gens-là, qui ils étaient ?
Oui, et d'abord, 24 conseillers de ville, c'est parce que je me suis servi de document de 1362, année pour laquelle il y eut 24 conseillers de ville. Mais à des époques autres que celle-là, et en particulier dans les époques difficiles de la guerre de Cent Ans, le nombre de conseillers variera. Ce sera toujours un minimum de 24, mais nous atteindrons certaines années jusqu'à 51. Autrement dit, on peut considérer que le conseil de ville regroupait et les personnages les plus importants de la ville, ceux de la bourgeoisie et de la petite noblesse, s'il y en avait encore, qui avaient à dire un mot et qui étaient intéressés à l'administration de la ville. Donc, les conseillers de ville, ce sont ceux qui, avec les consuls, participent à l'administration sans avoir des charges quotidiennes. Mais on peut choisir parmi les conseillers de ville certains responsables précis.
Voilà. Alors, Monsieur Julien, maintenant, vous allez nous parler des différentes attributions de l'administration communale que mettent les consuls en place dès leur élection.
Oui, je pense qu'elle touche un peu à tout. D'abord, c'est l'administration proprement dite et à laquelle vont faire face des personnages très précis qui sont l'aubourcier, c'est-à-dire le trésorier, celui qui tient la bourse, qui sera chargé de tenir les comptes au jour le jour. Et c'est grâce à ces livres de comptes que nous retrouvons avec une extraordinaire précision les conditions de vie de cette époque, ce que l'on mangeait, comment on se déplaçait, les métiers, la langue que l'on parlait. Alors dans ces livres de comptes, il y a les recettes et les dépenses. Si vous permettez, pour les recettes provenaient essentiellement, j'aurai l'occasion d'en parler à d'autres moments, mais essentiellement d'un impôt que les consuls percevaient au même titre que les vicomtes et qui portait le même nom d'ailleurs. Ça s'appelait la quisto, la caisse, la quête, qui était un impôt sur la fortune, proportionnel un peu à la fortune. Et en plus, ils avaient ajouté dans les moments difficiles un impôt supplémentaire. Vous voyez que toujours on a trouvé le moyen de faire payer les gens, qu'ils appelaient le personal, le personnel, l'impôt personnel. Ça, c'était les impôts communaux. Il y avait les impôts royaux, mais ça, c'était les impôts communaux. Et ensuite, comme autre recette, ils avaient tous les loyers des fours, des moulins communaux. Et bien entendu, des revenus du cos de Quercy, dont j'ai parlé la dernière fois. Deuxième personnage important, le tabellion, c'est-à-dire le secrétaire des consuls, qui était choisi parmi l'un des nombreux notaires de la ville, qui rédigeait les procès-verbaux des séances, les actes officiels sur parchemin, et était gardien du sceau consulaire, que l'on croit être créé en 1203. C'était un personnage donc essentiel, le tabellion. En plus, comme il ne faut pas oublier que les consuls étaient aussi juges, qu'ils avaient la justice dans la ville et dans la campagne, il était, si vous voulez, le greffier du tribunal des consuls. Enfin, les quatre sergents de ville, qu'on appelait los sirebens ou los degies, et auxquels on payait un salaire annuel d'environ 10 livres, et on fournissait en plus la livrée. Une raubo, c'est-à-dire une sorte de juste corps bleu, une capelle avec des ailes et des sabatous. Je ne sais pas ce que c'était que les sabatous, c'était les chaussures, mais enfin, je ne sais pas quelle forme elles avaient. Voilà l'administration, autrement dit, c'était le ministère de l'Intérieur, ça. Hein? Bon, ensuite venait l'assistance sociale, très importante au Moyen-Âge. Là, on désignait des responsables appelés gardos. Il y avait le gardo de l'hôpital, de la malautio, de las caritas. L'hôpital, c'était l'hôpital majeur que vous connaissez, ce n'était pas dans cette forme. Bien sûr, il a été reconstruit, et où étaient hébergés les pauvres, les vieillards. La malautio, c'était la maison des malautes, c'est-à-dire la léproserie, qui était la lèpre était une maladie endémique au Moyen-Âge et qui a sévi pendant des siècles et des siècles. Et vous savez sans doute que les lépreux n'étaient pas admis parmi la population, ils étaient tenus à l'écart. Alors, dans ce vallon là-bas de la malandrerie, qui s'appelait pour ça, parce que c'était un vallon resserré, fermé, obscur, aveugle, le vallon d'Orbanest était la maison des malades, gérée aussi par un garde. Et puis la Scalitats, c'était, si vous voulez, bénéficiant des quêtes qu'on faisait dans les églises, une sorte de fonds de secours pour les orphelins, pour les veuves en difficulté. Venait ensuite les affaires économiques, où là aussi on nommait des gardos. Le plus important de tous ces gardes, de tous ces responsables, c'était celui qui était chargé de la draperio, des draps, la fabrication des rats, des draps. C'était lui qui détenait une sorte de seau, de poinçon, si vous voulez, que l'on mettait sur toutes les pièces de draps fabriquées à Saint-Antonin, suivant un règlement de 1371 très précis. Je ne développe pas, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, je ne veux pas parler de ce règlement, mais enfin, ce contrôle des draps était très sévère. Il y avait le gardo de las mesures et el pes, c'est-à-dire celui qui était chargé de la conservation des poids et mesures, et en même temps d'encaisser les sommes que devaient payer les gens pour utiliser les mesures et le poids. Les mesures étaient en pierre, elles étaient placées derrière le musée actuel, dans ce qu'on appelait le poids public. C'était un monopole communal. Ce garde aussi avait une valeur d'inspecteur économique. Par exemple, il était interdit de vendre à Saint-Antonin du vin qui n'était pas de la commune de Saint-Antonin. Hein? Alors, il avait avec lui des sergents, on contrôlait l'arrivée du vin. Si ce n'était pas du vin de Saint-Antonin, il était confisqué.
Venez maintenant le service des approvisionnements et des subsistances, si l'on peut dire, avec là aussi des gardes, des gardos, nommés pour les boucheries, les fours et les moulins. Les boucheries, il y en avait de deux sortes, les boucheries vieilles, les boucheries neuves, le Mazelbiel, les grandes boucheries, dans lesquelles exerçaient les bouchers, qui prenait à l'adjudication chaque boucherie pour un an. Le garde des boucheries procédait donc à cette adjudication, encaissait le produit du fermage et surtout, lui aussi, contrôlait la qualité du service rendu, c'est-à-dire la qualité des viandes. Il était interdit aux bouchers de vendre des viandes dites malsaines. Si on le constatait, on confisquait les viandes, les chairs, comme on disait plus tôt, et malgré tout, on ne les jetait pas, on les distribuait aux pauvres de l'hôpital. Elles étaient malsaines pour la population, mais elles ne l'étaient pas pour les pauvres de l'hôpital. Il était aussi interdit de vendre de la viande de bouc. Là aussi, bouc vendu, bouc saisi. Enfin, on contrôlait très sévèrement les prix pratiqués par les bouchers et les poids qu'ils utilisaient pour peser la viande. Vous voyez, les bouchers ont toujours donné du souci aux contrôleurs économiques. Les gardes du four, ou des fours plutôt, la ville avait acheté progressivement les fours qui appartenaient autrefois au vicomte, et nous possédions dans notre ville plusieurs fours dont certaines rues rappellent aujourd'hui le nom. Il existait le four du pont, où se trouve actuellement l'auberge du pont. Il existait le four de la Pelissiero, appelé plus tard le four neuf, dans une ruelle parallèle à la rue de la Pelisserie. Il existait le four du Mazel Biel, dans une maison aujourd'hui démolie et qui était contiguë à la boucherie Gols. Il existait aussi le four du Bessarel. Ces fours étaient propriété communale, affermés tous les ans à des fourniers, des gens qui étaient des locataires des fours et qui étaient chargés de leur entretien de ces fours et qui cuisaient le pain qu'apportaient les gens de la ville. En effet, à cette époque-là, chaque famille qui avait des moyens, c'est-à-dire qui avait du blé, qui possédait des terres et qui avait du blé, donc de la farine, pétrissait elle-même sa pâte dans la maison et au moment de cuire, on portait la pâte à cuire au four communal. Il était interdit d'avoir un four particulier. Cependant, les gens qui n'avaient pas de blé, qui n'avaient pas de farine, s'alimentaient en pain par l'intermédiaire de las pesturesos, des boulangères, c'est-à-dire les magasins, les boutiques où l'on vendait du pain. Ces boulangères avaient aussi un droit de vente du pain qui était un monopole pour elles, mais qu'elles affermaient tous les ans au consul. Enfin, il y avait les gardes des moulins, là aussi contrôle sévère sur la qualité de la farine, sur le commerce de la farine. La juridiction de Saint-Antonin, la communauté de Saint-Antonin était très riche en blé et en farine, en exportait beaucoup, mais cela était aussi placé sous le contrôle des consuls. Les moulins étaient ceux que nous connaissons aujourd'hui, à peu près tous, à l'exception d'un seul qui était géré uniquement par la maladrerie, la léproserie. C'était le moulin qu'on appelle aujourd'hui la plage et qui s'appelait le moulin de Gélis. Il appartenait à la léproserie. Les autres moulins, le Gravier, Fontales, Roumégus, les Ondes, étaient des moulins communaux. Il y avait aussi des gardes pour l'entretien et la réparation de tous ces bâtiments communaux. Les fours, par exemple, il fallait les refaire tous les ans. Refaire la sole, refaire la brique, tout ça c'était une affaire qui préoccupait les consuls et nous possédons point par point tous les comptes nécessaires, les dépenses qu'il a fallu engager pour réparer ces fours. Autre service, les gardes aux bâtiments, aux ponts, aux remparts, aux chemins, ce qui est les travaux publics, l'équipement de l'époque. Les bâtiments, ce sont les bâtiments communaux. Le pont avait une importance considérable pour le commerce de la ville avec la province du Languedoc. Et puis les chemins. Il y avait un garde pour les chemins qui étaient au-delà de la porte du Pré, pour les chemins qui étaient au-delà de la porte des Carmes, pour les chemins qui étaient au-delà de la porte de la Condamine, pour les chemins qui étaient au-delà de la porte du pont, etc. Pourquoi un garde pour les chemins? Il ne faut pas s'imaginer qu'il y avait quelqu'un au milieu du chemin avec un bâton qui surveillait les gens qui passaient. Non, il était chargé de veiller à l'entretien des chemins. Entretien très difficile parce que la plupart de ces chemins qui dataient de l'époque très ancienne, peut-être même avant Jésus-Christ, puis de l'époque romaine, étaient plus ou moins bien pavés. Le pavage était coûteux, il ne se refaisait pas régulièrement et les forts orages les détruisaient. C'était aux gardes qu'il appartenait de pressentir les consuls pour que les réparations nécessaires soient faites. Mais les chemins aussi étaient un objet de convoitise pour les riveraines des chemins qui volontiers faisaient déborder leurs pièces de terre sur le chemin. Alors le garde veillait au respect de la propriété communale. Ensuite, évidemment, ces gardes-là, des bâtiments, des ponts, des chemins, il y avait aussi, il y avait le garde des murailles, entretien des murailles, qui à partir du XIe siècle vont prendre à Saint-Antonin une importance considérable. Dernière administration, si l'on peut dire dernière préoccupation des consuls, la police et la sécurité. La police d'abord. On en met un garde aux bestiales, aux bêtes. Ça paraît drôle, ça. Et à cette époque du Moyen-Âge, on ne pratiquait pas l'élevage comme aujourd'hui. Tout le monde avait des bêtes, plus ou moins, même les plus pauvres, même ceux qui n'avaient pas de terre. Cela supposait donc que ces bêtes, moutons, ou chèvres, ou ânes, ou bœufs, ou vaches, pouvaient dépaître dans les terrains qui n'étaient pas sa propriété propre. C'était des terrains communaux ou autres. Et on était très jaloux, justement, de surveiller les dégâts que pouvaient commettre ces animaux dans les terres. Et c'est ainsi que, si l'on avait le droit, grâce à un privilège qui existait au Moyen-Âge, appelé le privilège de la veine pâture, si on avait le droit de faire paître ses moutons dans le pré du voisin, cela n'était autorisé que jusqu'au premier dimanche de mars. Et à partir de là, défense. Les terrains communaux, on pouvait y aller si c'était les communaux de la juridiction de Saint-Antonin. Mais si c'était des communaux de Peine, ou des communaux de Caylus, ou des communaux de Casse, on n'avait pas le droit d'y aller. Alors là, il y avait toute une police assurée régulièrement par ce garde-là et des sergents qui surveillaient que les animaux ne soient pas en infraction. Il y avait aussi les gardes au mur, c'est-à-dire celui qui était chargé d'établir le tour de garde au moment des troubles, au moment des guerres, pour la garnison qui se mettait en place sur le chemin de ronde et aux portes. De façon à protéger la ville contre les invasions étrangères. Enfin, et ça c'est une chose très curieuse, pour la sécurité aussi, il y avait 4 gardes préposés aux Juanados, c'est-à-dire au feu de Saint-Jean, qui se faisait dans les 4 quartiers de la ville, à Budorat, à Bucario, à Foyt et à Roque Escalier.
Alors, Monsieur Julien, vous nous avez dit que la ville de Saint-Antonin était très autonome, avec une administration qui devait pourvoir à tous ses besoins. Et je suis un peu étonné de voir que, par exemple, on a nommé des gardes au feu de Saint-Jean et qu'on néglige un peu des problèmes comme l'agriculture ou l'enseignement.
Eh oui. Il est certain que dans les documents que nous possédons, on parle très peu de ces questions-là. Dans la prochaine émission, nous essaierons d'en parler un peu, bien que nous manquions, je le dis bien, de, de documents. Nous verrons pourquoi on parle peu des paysans et pourquoi aussi on ne parle pas de l'éducation. Pour le moment, c'est surprenant en effet qu'on nomme des gardes pour les feux de Saint-Jean. C'est quand même une fête qui dure une nuit, quelques heures, même pas une nuit, quelques heures. Mais il faut penser que ces feux de Saint-Jean se faisaient à l'intérieur de la ville. Celui de la Gâche de Foc se faisait sur la place du consulat, sur la place actuelle de la Halle. Celui de la, du quartier de Rocco Escalieiro se faisait sur la place du Maselviel. Celui de la, du quartier de Bucario Dupont se faisait sur la place Saint-Michel, devant le garage actuel Vessière. Et celui de Boudorat se faisait sur la place du Bessarel, toute petite place. On comprend tout de suite, sans doute, pourquoi il fallait quelqu'un à l'organisation de ces manifestations, sans doute pour les approvisionnements en bois, et le bois qui se prenait dans les bois communaux, mais surtout pour la police de la chose, parce que on risquait à tout moment un incendie qui aurait pu être catastrophique pour la ville.
Alors, Monsieur Julien, au sujet de ces feux de Saint-Jean, vous avez évoqué les quatre quartiers de Saint-Antonin. Pourquoi Saint-Antonin était-il divisé en quartiers ?
Toutes les villes médiévales, sujettes à la menace permanente d'attaques extérieures, exigeaient une surveillance permanente pour protéger la ville de toute invasion. Et pour cela, comme on ne peut pas tout surveiller, il était normal qu'on divisât les villes en quartiers. Il y a des villes qui étaient divisées en un nombre de quartiers qu'on ne devrait plus appeler quartiers. Par exemple, Najac avait 9 quartiers. Je vous demande un peu. Quartier veut dire 4. Eh bien, Saint-Antonin n'est pas une ville comme les autres. Vous voyez, elle est tout à fait normale. Saint-Antonin était divisé en 4 quartiers, mais qu'on n'appelait pas quartiers. On les appelait des gazos. Pourquoi gazos ? Le mot gazos vient de l'occitan gaz, qui veut dire gai, gaieté, surveillance. Ces 4 quartiers, malheureusement, nous en avons perdu le nom, c'est regrettable aujourd'hui, et on devrait le reprendre. Ces 4 quartiers, vous allez très facilement avec moi les suivre. Il y avait le quartier noble, le quartier chic, le quartier bourgeois. C'était le quartier des Facts, qui s'appellera plus tard Foyt. C'est le quartier de l'hôtel de ville, de Rodanèse. Et il était limité à la rue de la Pélisserie, et à l'extérieur par le rempart de ville, jusque à peu près à la maison de Mademoiselle Léris. Puis une ligne coupée venait sur la rue Cahissac, et reprenait ensuite, descendait, et reprenait ensuite jusqu'au pont des Vierges, la rue du pont des Vierges, remontait la rue droite. Voilà le quartier bien, le quartier bourgeois, le quartier commerçant. Deuxième quartier, derrière celui-là, vers la rivière, le quartier de Rocco Escalieiro. Quel joli mot ça, Rocco Escalieiro, qu'on appellerait aujourd'hui plutôt des Carmes. Mais c'était son nom, Rocco Escalieiro. C'était aussi un quartier bourgeois, ça, celui-là. Essentiellement le quartier du textile, des draps, des teintureries, et des foulonneries, des sergets, le quartier textile. Au bord de l'Aveyron, tout à fait au bord de l'Aveyron, ce que nous appelons le quartier du pont aujourd'hui, s'appelait Bucario. Et enfin, toute la partie basse de la ville, qu'on appelle aujourd'hui le Bessarel, le bas quartier, c'était Boudorat, le plus important de tous les quartiers de la ville. Le plus important, puisque un recensement fait après la guerre de Cent Ans, au moment où la population a fortement baissé dans la ville, on compte dans Boudorat, rien que dans Boudorat, 215 feux. Un feu, on ne dénombrait pas les habitants à ce moment-là comme on le fait aujourd'hui, un par un. Ce qui comptait dans cette structure sociale de l'époque, c'était la famille, c'était la maison, avec les parents, les grands-parents, les enfants, les tantes, les oncles et aussi les serviteurs. Ce qui fait qu'il est très difficile aujourd'hui d'apprécier la population d'une ville en fonction des feux. Mais enfin, à cette époque-là, 1362, le quartier de Boudorat compte 215 feux. En estimant approximativement que chaque feu comprend en moyenne 5 personnes, vous voyez que le quartier du Bessarel de cette époque-là comptait plus de 1000 habitants. Or, vous le savez, mes chers compatriotes, nous ne sommes plus que 532 dans tout Saint-Antonin. Thank you.
c'était une basse danse de Marguerite de Bourgogne. En ce temps-là, régnait sur le royaume de France le roi Louis X le Hutin, fils de Philippe IV le Bel. Il épousa Marguerite de Bourgogne, qui composait, pour animer ses fêtes, des musiques à danser.
Donc, Monsieur Julien, vous étiez en train de nous expliquer que Saint-Antonin était divisé en quatre quartiers pour des raisons de sécurité.
Exactement, oui, essentiellement. Et dans chacun des quartiers était désigné un consul responsable qui lui-même désignait les hommes qui, sous la conduite d'un sergent de ville, effectuaient chaque nuit la ronde du guet. Tout le monde se souvient le guet au Moyen-Âge. Ce guet, c'était ce sergent de ville et les hommes qui le suivaient, veillaient à ce que le couvre-feu soit mis dans toutes les maisons à cause des risques d'incendie, surveillaient les rôdeurs, les voleurs. Cette équipe du guet sonnait l'heure des mitraillettes, c'est-à-dire qu'à minuit, on sonnait la trompette pour annoncer aux habitants qu'il était minuit. Et en cas d'alerte, c'était ce guet qui toquait l'heure, le toque-sen. Et c'est de là, messieurs et mesdames, qui méprisaient l'occitan, que vient le mot français « tocsin ». Il vient du mot occitan, du mot composé occitan, « tocosen ». Ce consul chargé d'un quartier contrôlait aussi le service des portiers des portes des remparts. Il veillait à ce que les portes soient fermées le soir venu. En cas de menace de guerre, il dressait le rôle de garde à la porte et à la partie des remparts de son quartier, qui était un service, ce service de garde était un service obligatoire pour tous les citoyens. Et l'ours qui habían fallit al gats era un pignorats. Ça veut dire que si des gens avaient manqué à leur tour de garde, on leur saisissait leurs biens et on les vendait ces biens à l'encan. Pour ceux qui n'ont jamais vu les remparts de Saint-Antonin, vous pouvez encore en trouver des restes dans la maison de Madame Beyrou. La façade sur le vallon, c'est le rempart. Et puis ensuite, en vous promenant au bord des quais de l'Aveyron, toute la muraille ancienne subsiste. Et aujourd'hui, nous serions bien en peine de mettre un consul ou un conseiller municipal de service de garde dans chaque quartier, parce que notre ville de Saint-Antonin a toujours ses quatre quartiers, mais elle ne possède plus que trois conseillers municipaux à l'intérieur de la vieille ville, ce qui est déjà pas mal. Nous n'en avons jamais eu tant depuis plusieurs années. Madame Aliès dans la gâche de Fatch, le docteur Aynal dans la gâche de Roquescalier et monsieur Bladget dans la gâche de Beaudroite. Il y a que les gens de Bucario qui n'ont pas de consul.
Voilà, monsieur Julien. Donc, Saint-Antonin sort d'une période très troublée, la croisade des Albigeois, vous nous l'avez raconté, et devient très bien organisé. C'est une nouvelle vie pour les Saint-Antoninois.
Et oui, une nouvelle ville va s'établir pendant peu de temps, relativement, un petit siècle. Une période de paix va régner. Et l'administration ainsi bien structurée va favoriser une reprise économique et un nouvel accroissement de la population. Alors naîtront les premiers faubourgs hors des portes. Le faubourg del Prat, en avant de la porte du Pré, autour de la place des Tilleuls. Le faubourg de la Condamine, qui va se constituer à partir du début du XIVe siècle et se développer, quand la ville sera devenue propriétaire du Pré des Chanoines, que nous appelons aujourd'hui le Pradel. Ce sera un deuxième pré commun qui prendra le nom, pour cette raison, de Condamine, Condumine, qui veut dire le bien commun. Dès lors, notre ville aura à peu près la configuration qui était encore la sienne il y a 50 ans, avant que la maladie pavillonnaire ne ronge le pré commun et le noble val. Mais cette période de paix, comme je l'ai dit, ne durera qu'un siècle.